Le vulgarisateur d'actualité, Farnel Morissette, est avec nous en studio. Comment qu'il va, Farnel?
Ça va bien, comment ça va, vous autres?
Ça va bien, ça va bien. Le seul, l'unique, vous l'appréciez autant que nous, Farnel Morissette, qui a donné en personne son oui pour une chanson des séries à Max Larouche?
Absolument. Moi, je suis un grand fan de Maxime Gunn Kelly.
Oh, Maxime Gunn Kelly,
un connaisseur. Endossé par Farnel Morissette.
On n'a plus le choix.
Aïe, aïe, aïe.
On va de l'avant. Vendredi matin, 7 heures.
Ah, j'ai hâte.
Parfait. C'est fait.
Il est même rendu qu'une heure de sortie, puis tout. Là.
Hey, Farnel, on a finalement eu le cadre financier du Parti conservateur du Canada après le débat, après le vote par anticipation aussi. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser le fameux proverbe « mieux vaut tard que jamais » ?
C'est très tard. Oui, mieux vaut tard que jamais, certainement. Je veux dire, par cette même logique-là, si le Parti conservateur avait voulu dévoiler son plan le matin de l'élection, ça serait mieux de ne pas le dévoiler du tout. Mais et puis, je veux dire, là-dessus, je lance la flèche aussi au Parti libéral parce que c'est un peu la même affaire. Dévoiler un plan chiffré comme ça, si tard... surtout, je veux dire, particulièrement après le vote par anticipation, là, c'est entre 40 et... c'est à peu près 40 % des électeurs qui votent par anticipation. Je trouve ça dommage. Je trouve ça irrespectueux envers les électeurs de pas donner la chance aux électeurs de faire le meilleur choix éclairé qu'ils peuvent avec toute l'information que les partis ont leur offrir.
Stratégie où on était juste... Je veux pas dire... Pas prêt. Je vais le dire demain.
Ben, je sais pas. Particulièrement des conservateurs qui demandent des élections depuis des mois. Encore une fois, je lance la même flèche au Parti libéral, mais eux ont peut-être l'excuse que, bon, ils ont eu une course à la chefferie, ils ont peut-être changé de direction. C'est sûr que rechiffrer une nouvelle direction, ça prend du temps. Mais le Parti conservateur
n'a pas cette excuse-là. Quoi que certains diront que c'est pas tant une nouvelle direction.
Ben, c'est pas tant une nouvelle direction, en tout cas. Je veux dire, je regarde le budget, il n'y a pas... tu sais, là-dessus, je veux dire... Je regarde les deux cadres, les deux plans chiffrés. Oui, il y a des différences, mais on n'est pas dans les grosses différences idéologiques par rapport aux dépenses prévues par les deux partis non plus.
Par rapport à ça, Farnel, moi, j'ai accroché sur quelque chose. Les deux partis, autant les conservateurs que les libéraux, disent les contre-tarifs, ça va nous rapporter 20 milliards. Bon, pour moi, c'est difficile à chiffrer déjà à la base parce qu'on va les laisser combien de temps, puis aussi qu'est-ce qu'on va faire vraiment avec. Je vais juste prendre dans le secteur de automobile, finalement, on les a enlevés rapidement pour permettre justement à l'industrie de continuer ses activités au Canada. Mais ce 20 milliards-là, on n'arrête pas de nous dire, il va être investi dans les entreprises, il va être investi pour les travailleurs, mais finalement, il fait partie des revenus du gouvernement.
Ouais, dans les cadres chiffrés, encore une fois, des deux parties, je vois pas, je vois un 20 milliards d'entrées de prévues, exactement le même chiffre pour les deux, d'ailleurs, mais je vois pas un réinvestissement de 20 milliards. Les libéraux prévoient un réinvestissement de 2 milliards et des poussières, ce qui équivaut à peu près 10 % directement dans ce qu'ils appellent l'aide aux entreprises et aux employés qui sont affectés. Le Parti conservateur, dans sa plateforme, en prévoit 150 millions, un peu moins de 1 % pour aller à ce qu'on appelle un fonds d'aide pour les employés qui vont être affectés. Peut-être que ce qu'ils prévoient, c'est qu'ils vont dire « Ah oui, mais tu sais, les revenus, on va les redistribuer ailleurs, puis dans l'ensemble, ça va aider les gens. » Alors, mais on n'est pas là où est-ce qu'on parlait pendant la campagne, pendant les débats, de dire « Non, tout l'argent des tarifs, particulièrement du Parti conservateur, Pierre Poilievre, qui disait qu'eux, ils n'allaient pas prendre ça pour ajouter aux revenus du gouvernement, ils allaient tout redonner aux personnes affectées. Peut-être que c'est leur plan par par la bande de plein d'autres façons, mais si on regarde le programme chiffré lui-même, c'est juste pas dans le programme.
C'est difficile pour l'électeur moyen à ce moment-là de croire nos politiciens avec un cadre financier quand juste une promesse hyper simple comme ça se perd dans toutes les colonnes de chiffres d'un budget. Il me semble que moi, en tant qu'électeur moyen, je suis « Ah, voyons, ils essayent encore de m'en passer une, eux autres. »
Ben moi, en tant qu'électeur moyen, j'ai bien de la misère à croire à tout ce qui se trouve dans les cadres chiffrés, tant du Parti libéral que du Parti conservateur. Et puis, je veux dire, c'est pas par manque de bonne foi, là. C'est juste que c'est des cadres qui sont très optimistes, puis il y a plein de choses qu'on a vues plein de fois là, qui sont pas matérialisées. T'sais, on dit « Ah, on va aller chercher des milliards en efficacité gouvernementale. » J'ai déjà entendu ça. Oui. On va aller chercher des milliards parce que, bon, ben, en baissant nos impôts, ça c'est particulièrement dans le cadre conservateur, en baissant les impôts, les revenus vont augmenter. Je veux dire, j'ai déjà entendu ça aussi, mais c'est un peu comme dire qu'une business va faire plus d'argent en baissant les prix parce qu'elle va vendre tellement plus de produits que ce qu'elle va perdre en profit individuel. Elle va gagner en profit collectif. C'est pas impossible, mais c'est extrêmement optimiste. Et puis, ben, chaque fois que j'ai vu ces promesses-là, ça s'est pas matérialisé.
OK, Fernel, est-ce que l'exercice, selon toi, vaut la peine? Si on se dit que dans 3 ans, avec le parti qui sera au pouvoir, on va revisiter le cadre financier puis faire comme, bon, ben, on n'a pas respecté ça du tout.
Est-ce que l'exercice vaut la peine? Je pense qu'il faut le voir comme un exercice où le gouvernement étale ses priorités idéologiques, mais il ne faut pas le voir comme un exercice financier rigoureux, okay. Parce que sincèrement, j'ai énormément de misère à croire que les chiffres qu'on voit dans les cadres chiffrés des partis sont réalistes. Mais ça indique où est-ce qu'eux veulent mettre l'emphase, qu'est-ce qu'eux considèrent comme étant important. Puis là-dessus, il y a quand même des différences. Je veux dire, le Parti libéral prévoit d'augmenter les déficits de façon quand même importante. Le Parti conservateur prévoit de les réduire, mais fait quand même des déficits importants. Je veux dire, moi, en lisant le budget, les cadres hier, je me rappelais en 2015, quand Justin Trudeau se faisait fustiger par Harper d'être irresponsable à proposer des déficits de 10 milliards par année. Bien là, dans le cadre financier des conservateurs, on prévoit l'année prochaine un déficit d'un peu plus de 30 milliards. L'année après, un peu plus de 30 milliards encore. Puis après ça, ça commence à diminuer, 25 milliards, 14 milliards. C'est sûr que le contexte est différent, mais ça montre à quel point aussi, financièrement, on n'est plus dans la même réalité qu'il y a 10 ans. Et puis, je pense que les cadres financiers représentent ça et représentent les intentions des partis par rapport à ça.
Et penses-tu que les cadres financiers, puis j'imagine que ça doit dépendre à chaque élection selon les dossiers chauds de chaque élection, là. Mais tu sais, cette année, oui, c'est sorti tard, mais j'ai l'impression que la grande majorité de la population, puis même des électeurs, l'ont même pas vraiment regardé, puis qu'eux autres, peu importe le cadre financier qui allait sortir, mon choix est fait. Un peu comme, tu sais, ça va dans le même sens que les débats. T'sais, soit ils l'ont regardé en sachant déjà pour qui il allait voter, soit ils l'ont même pas regardé en sachant pour qui il allait voter. J'ai l'impression que c'est un peu ça aussi pour les cadres financiers.
Ouais, puis je pense que c'est la poule et l'œuf qui se passe. Je pense que tu as bien raison. À mesure que les partis, encore une fois, je pense que manque de respect, c'est le bon terme, à mesure que les partis manquent de respect des électeurs en déployant des cadres financiers qui sont pas très réalistes, en déployant très tard, les électeurs arrêtent de s'y fier. À mesure que les électeurs arrêtent de s'y fier, les partis politiques sont pas punis de pas le faire. Fondamentalement, je pense qu'encore plus que le débat, les cadres financiers des partis sont plus des outils de communication aux experts dans les médias, les gens qui vont éplucher ça, puis après ça vont rapporter ce qu'eux ont vu. Parce que ouais, je suis d'accord que c'est pas très réaliste de demander à chaque électeur de lire un cadre financier, un programme de 30 pages avant d'aller voter. Je veux dire, il y en a qui vont le faire, moi je l'ai fait parce que je suis mordu là-dessus, mais c'est pas tout le monde qui va le faire. De là, c'est des documents qui sont conçus justement pour que les analystes puissent après ça aller dans les médias écrire leurs éditoriaux, ce genre de choses-là, sur certaines mesures en fonction de chaque région. On parlait des enjeux, par exemple, le Parti conservateur mentionne clairement qu'ils vont avoir un appui au troisième lien, même si je précise qu'il n'est pas encore chiffré. Le Parti libéral propose, en tout cas, ils ont tous des choses individuelles dans leur cadre financier qui disent « ça, c'est intéressant pour moi, ça, c'est intéressant pour moi », qui sont des clins d'œil pour les analystes après ça, qui, eux, vont rapporter ce qu'eux trouvent important aux électeurs. Alors, il y a encore un travail d'intermédiaire par les médias qui se fait dans ces documents-là qui est de moins en moins important.
Je veux t'entendre là-dessus. Moi, je trouve qu'il y a un piège de chaque côté à leur cadre financier. Le piège pour le Parti libéral, c'est que Mark Carney avait dit « je vais équilibrer le budget en 3 ans » puis finalement, on a des déficits structurels de 225 milliards. Je trouve que c'est un piège. Mais du côté des conservateurs, Pierre Poilievre qui veut justement venir gérer davantage le financement des universités par rapport à leurs idéologies. Il y a un comparatif à faire avec ce qui se passe aux États-Unis et Donald Trump.
Oui, ça, c'est quelque chose qui m'a fait sourciller. Puis ça, c'est un bon exemple. Il y en a d'autres aussi. Je parlais de clin d'œil un peu. J'ai l'impression que ça, c'est un clin d'œil à une certaine mouvance conservatrice qui est peut-être un peu plus proche de ce qui se passe aux États-Unis avec l'administration Trump. C'est écrit carrément dans le cadre qu'on va couper le financement aux universités qui ne respectent pas les principes de liberté d'expression garantis par l'article 2 de la Charte. Ben, de un, je veux dire, les universités sont déjà assujetties aux lois, là. C'est pas nouveau. Mais ça va être qui va déterminer si les universités respectent la liberté d'expression? C'est la liberté d'expression selon qui? On voit aux États-Unis que la même approche, la même rhétorique est utilisée par l'administration Trump pour couper le financement aux universités qui ont peut-être un penchant un peu trop démocrate, un penchant un peu trop progressiste, un peu trop libéral, selon l'administration Trump, en visant des mesures de diversité, équité et inclusion. Il y a... il y a une sous-trame à travers le budget qui ressort à des petits points. Là, je veux être clair, là, c'est pas un cadre financier trumpiste, absolument pas.
Non, du
mais
tout.
Il y a des petites bribes, des petits clins d'œil envers ce mouvement-là aussi à l'intérieur de ce budget-là, que ça m'agace un peu.
Puis par rapport à ça, Donald Trump, présentement, l'ennemi numéro un au Canada, alors est-ce que stratégiquement, c'est payant pour Pierre Poilievre de... Je vais le dire comme ça, t'es de se mettre devant tous les Canadiens avec une telle politique?
Mais je pense que c'est Pierre Poilievre qui s'est mis dans ce piège-là lui-même. Mm-hmm. Ça fait des années qu'il se rapproche quand même de ce qu'on pourrait appeler les Maple MAGA. Encore une fois, je suis pas du tout en train de dire que M. Poilievre est un MAGA, mais dans la grande tente, la coalition des conservateurs, il a certainement fait de la place pour le convoi des camionneurs, pour des gens qui avaient des revendications qui se rapprochaient beaucoup du mouvement MAGA. Et puis ben, maintenant, pour essayer de garder ces gens-là à l'intérieur de sa coalition, il est obligé de leur lancer des petites perches une fois de temps en temps, comme la mesure sur le financement des universités.
Farnell, sans nécessairement rentrer dans les fins détails puis toutes les lignes des deux cadres financiers, là, libéral et conservateur, y en a-tu un, selon toi, qui est plus... réalisable ou réaliste?
Non. c'est malheureux. C'est plate de répondre aussi clairement que ça. Je regarde les deux et moi, je veux dire, si j'étais j'étais quelqu'un qui a besoin d'investir dans une entreprise, puis j'aime pas trop les analogies du gouvernement avec des entreprises privées, mais gardons-la quand même. Si je suis un investisseur qui est obligé de choisir entre les deux, je regarde les deux cadres financiers, je me dis, ben voyons donc, je vais pas investir là-dedans, ça n'a pas de bon sens, vous rêvez en couleur. Mais... vu du point de vue où c'est pas un document rigoureux financier, mais c'est plus une indication des objectifs, des intentions, des valeurs, les grandes orientations des partis, je pense que c'est bien dit. Ça peut être quelque chose qui va parler aux gens. Puis je veux pas dire aux gens comment faire leur tête là-dessus, à chacun de prendre le temps de le regarder s'ils veulent. C'est pas des documents qui sont inaccessibles. Oui, c'est long, mais je veux dire, si vous avez une heure et demie, ça se fait, là. Alors, si vous voulez être vraiment très bien informé, je vous encourage à le faire.
Avec du café aussi.
Un petit café, ça aide.
Un petit Red Bull, un petit café.
Ou si vous voulez bien vous endormir des fois aussi.
Une belle lecture de chevet.
Jeff Fortin.
Ah oui, une belle lecture de chevet. Il n'y a pas de doute là-dessus.
Ouais. Hey, Farnell Morissette, si vous ne le suivez pas sur les réseaux sociaux, il faut absolument le faire. Et Farnell, si on ne se voit pas d'ici là, tu seras avec nous, bien sûr, lundi soir prochain pour la soirée électorale. On est là quoi, de 20h à au moins minuit?
De 20h au moins minuit, je le rappelle, sans pause publicitaire, sans musique, disponible à Québec sur le boulevard 102.1, à Montréal sur le 99.5 Montréal, Farnell, Jacinthe Varel, toute l'équipe du matin avec Reg Laplanche, Jeff Fortin, Max Larouche, le journaliste à Montréal, Alex Laramé, Mathias, notre stagiaire qui va être sur le terrain à Québec pour aller dans différents rassemblements. Alors, on va vous offrir la meilleure soirée électorale. Il y a les séries de hockey ce soir-là. Le Canadien ne joue pas, mais c'est pas grave, amateur de hockey. Vous mettez séries de hockey à TV puis vous nous écoutez pour la soirée électorale. Vous allez être servi à souhait.
Au pire, on va vous donner le score à mesure que ça bouge.
Oui, c'est clair.
Plan de match parfait. Hey, Farnell, merci pour ça ce matin. Toujours un plaisir quand tu viens nous voir à Rage Against le matin.
Merci de vous. C'est toujours un plaisir de commencer ma journée.
Après la pause, le chef par intérim du Parti libéral du Québec, Marc Tanguay, avec nous en studio. On s'arrête deux.